terre de valeurs et de traditions, le Pays Basque foisonne d'entreprises innovantes. En 2020, le territoire s'est vu attribuer le label officiel de la French Tech par le ministère de l'Économie et des Finances. Je m'appelle Nila Tibérin, je suis Community Lead pour la communauté French Tech Pays Basque, qui a pour objectif de mettre en lumière les sociétés innovantes locales. Tous les jours, l'association accompagne des femmes, des hommes ambitieux, avec pour objectif de les soutenir, de leur apporter de la visibilité et de créer des synergies avec l'écosystème. Elle œuvre également pour favoriser leur développement à l'international. Avec ce podcast, Leader Inspirant, je vous propose de rencontrer ces dirigeants, ces passionnés, bref, ces personnes animées qui vont partager avec vous leur parcours et leur vision de leurs produits et services de demain. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Leaders Inspirants, le podcast de la French Tech Pays Basque. Aujourd'hui, je reçois Yann Etcheverria, le fondateur et CEO de l'entreprise Elcano. À l'ère du télétravail et de la collaboration décentralisée, la société Elcano a développé une application Microsoft Teams pour connecter les équipes du monde entier sur une plateforme reliée à l'intelligence artificielle afin de fluidifier le partage de connaissances et d'informations. Nous sommes aujourd'hui sur la Technopole Isabelle à Bidart et nous avons choisi d'enregistrer le podcast directement dans les locaux d'Elcano. Bonjour Yann.
Salut Nilia.
Bienvenue à ce micro des leaders inspirants de la French Tech Pays Basque. Alors pour commencer cet entretien, j'aimerais que tu me racontes un peu ton parcours personnel, professionnel, les vacances au Pays Basque, l'école d'ingé qui a suivi, ce grand groupe dans lequel tu es passé et puis ce retour pour lancer Elcano. Est-ce que tu peux me raconter ?
Oui. Alors moi, je suis ingénieur de formation, comme tu l'as dit. J'ai fait mes études à Troyes. Mais avant ça, j'avais fait une année d'école de design. Parce que juste après le bac, en fait, j'hésitais un peu entre ingénieur et design. Donc j'ai fait une année, ça m'a plu un petit peu, mais sans plus. Et je voulais quand même comprendre un peu plus la technique. Donc c'est pour ça que j'ai fait ingénieur après. Mais ça a aussi alimenté ma réflexion et mes envies par la suite, après l'école. Donc j'ai fait mon école d'ingénieur à Troyes. Ensuite, j'ai fait un stage de fin d'études à Paris, dans une grande multinationale américaine. Et à la suite du stage, en fait, ils m'ont envoyé à Genève, où là, j'ai travaillé au siège européen, où il y avait à peu près 5000 personnes qui travaillaient pour cette grande entreprise là-bas. Et là-bas, j'étais en charge de concevoir et de mettre en place des outils de collaboration pour favoriser la collaboration entre les équipes, les business units, etc. Donc, je ne m'étais pas du tout projeté quand je suis arrivé là-bas que j'allais faire ça. On m'a donné ça comme mission. C'était pas prévu du tout. C'était un peu le hasard. Mais ça m'a bien plu parce que justement, il y avait ce côté de conception, création, innovation, d'essayer d'inventer en fait des systèmes pour régler des problèmes et le vendre à des utilisateurs. Donc ça m'a bien plu, j'ai fait ça pendant presque 7 ans là-bas. Ça m'a permis de rencontrer aussi, de voyager pas mal, parce que je devais aller donc, concevoir les outils et puis après les vendre aux différents pays, donc j'ai pas mal voyagé. Et c'est là où je me suis rendu compte que ce qui me plaisait vraiment, c'était le côté créativité autour de l'ingénierie, c'est-à-dire d'inventer des nouveaux systèmes.
Le design.
Le design aussi, c'est pour ça que j'en parlais un petit peu au début. Et c'est à partir de là où j'ai commencé à réfléchir à peut-être me lancer dans l'entrepreneuriat.
Est-ce que tu savais dès le départ que tu allais devenir entrepreneur ?
Pas du tout. Pas du tout, du tout.
C'était quoi le déclic, alors l'idée de développer Elcano ?
J'en avais pas conscience au départ, parce que c'est vrai qu'à l'époque aussi, c'était pas un sujet qui était aussi développé que maintenant.
Ouais.
Et donc, j'avais pas forcément conscience que je pouvais faire ça. Et ensuite, c'est quand j'ai commencé à travailler dans cette grande entreprise, je me suis rendu compte que ça me plaisait pas mal. D'inventer des choses et de les vendre, etc. Et je me suis rendu compte que que je me débrouillais pas trop mal à le faire aussi, que j'avais envie de le faire et qu'il y avait peut-être du potentiel. Donc j'avais déjà un peu cette réflexion-là, et puis c'est aussi à ce moment-là où, en travaillant dans cette entreprise-là, j'ai vu qu'il y avait sur un cas d'usage, enfin sur un problème en particulier, qu'il y avait une vraie opportunité. Et donc voilà, c'est à ce moment-là où j'avais déjà cette envie-là, et puis j'ai vu cette opportunité.
Décris-nous un petit peu la problématique que tu as observée et cette opportunité qui est arrivée.
L'histoire que je raconte souvent, donc je travaillais dans un immeuble où il y avait 5000 personnes, donc c'était un grand immeuble où il y avait beaucoup d'employés qui travaillaient. Et donc j'avais une collègue qui travaillait en marketing, qui devait faire une étude de marché assez stratégique pour entrer sur un nouveau marché. Et elle avait mis à peu près 6 mois à rassembler toutes les connaissances, expertises, etc. pour faire cette étude de marché. Et au bout de 6 mois, on travaillait au quatrième, la machine à café du quatrième ne fonctionnait pas. Et elle est descendue au troisième pour prendre son café. Et elle a discuté par hasard avec quelqu'un qu'elle ne connaissait pas, la machine à café. Et elle s'est rendue compte que cette personne bossait dans une équipe qui travaillait exactement sur le même sujet, un étage plus bas, et qui ne s'était jamais parlé. Et c'est une histoire, rien. C'est pas, c'est... Et donc, quand elle m'a raconté ça, au début, j'ai rigolé. Mais après, je me suis rendu compte que dans une société aussi... C'était une société qui était avec beaucoup de process, beaucoup d'outils, enfin qui était très bien organisée. Mais le fait qu'il y ait encore des situations comme ça, c'était à la fois un problème et une opportunité. Et donc j'ai commencé à étudier un peu ce sujet-là, qui est le sujet du partage de connaissances dans les grandes organisations, pour voir qu'est-ce qui existait déjà et s'il y avait des possibilités de trouver des nouvelles solutions pour régler ce problème.
Ok. Et donc, du coup, est-ce que tu peux nous décrire cette solution donc, d'intelligence artificielle que tu as développée et qui est intégrée complètement à Microsoft Teams ?
Alors, le problème dont je viens de parler, c'est un problème qui existe depuis longtemps, le partage de connaissances dans les grandes organisations. Il y a eu beaucoup d'outils, de process qui ont essayé de régler ce problème-là. Mais ils se confrontent toujours à une barrière qui est que, en général, pour régler ce problème-là, on va mettre en place une plateforme, ce qu'on appelle une plateforme de partage de connaissances centralisée, et on va aller voir les employés et leur dire « Allez-y, partagez ce que vous savez sur la plateforme.
Ouais. »
Mais ce qui se passe dans la pratique, c'est que ça prend du temps, on ne voit pas forcément l'intérêt et personne ne le fait. Quoi.
Ouais.
En général, il y a entre 5 et 10% des employés qui prennent le temps d'utiliser ce genre de plateforme. Donc l'idée, c'était de comment régler ce problème-là en évitant qu'il y ait du déclaratif, donc en évitant de demander aux personnes d'aller partager. Et comme à ce moment-là, il y avait aussi l'émergence de Teams et l'émergence de nouvelles technologies d'intelligence artificielle, d'NLP, donc d'analyse automatique du langage, l'idée, c'était de se greffer sur ces outils de collaboration, où il y a beaucoup d'échanges en fait, de textes, de documents au quotidien, des outils de collaboration du quotidien, et d'analyser les échanges qui passent par ces outils-là, donc les documents, les PDF, les PowerPoint, d'analyser ces données, ce texte-là, afin de savoir qui a travaillé sur quoi et à quel moment, et donc de pouvoir cartographier les connaissances des personnes sans leur demander de déclarer. Et donc, grâce à ça, on peut faire une cartographie automatique de qui a travaillé sur quoi, et ainsi mettre automatiquement en relation des personnes qui travaillent sur des sujets similaires sans se connaître, comme l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, et ceci vraiment au travers de l'organisation. Donc, c'est-à-dire, ça peut être des personnes qui sont dans des business units, dans des filiales différentes ou dans des pays différents, et arriver à connecter voilà, deux personnes qui travaillent très très loin l'une de l'autre, qui ne se connaissent pas, mais qui devraient se parler.
Et ça, c'est vraiment au service de la qualité du travail, finalement, parce qu'on gagne du temps.
Oui.
Et on améliore aussi la qualité du boulot.
C'est ça. C'est vraiment... Donc, il y a un côté de gain de temps, ça, c'est évident. Mais moi, ce que je préfère mettre en avant, c'est plutôt sur la qualité du travail. C'est-à-dire que dans l'anecdote, l'exemple que je donnais tout à l'heure, eh bien, ma collègue qui a eu accès à l'autre équipe, eh bien, sa recommandation, son étude de marché était beaucoup plus pertinente. Et ils ont mieux attaqué le marché, ils ont mieux travaillé. Et ça, donc ça aide sur la qualité, ça peut aider aussi sur l'innovation, c'est-à-dire que quand on travaille, on est deux à travailler sur un sujet un petit peu similaire, mais pas exactement la même chose, et on partage ce qu'on fait, ça va donner des nouvelles idées, des nouvelles perspectives, et trouver des manières d'aborder le travail de manière différente, parce qu'on est toujours enrichi par les connaissances des autres.
Et par une autre vision.
Tout à fait.
Et ce qui est intéressant aussi, c'est que même si le salarié est parti il y a 10 ans de la filiale qui était en Australie, votre IA va pouvoir aller retrouver le PowerPoint sur lequel elle avait bossé sur le même sujet.
Oui, ça va aussi permettre justement de... Il y a ce côté de mise en relation, et ensuite on va capitaliser les échanges entre les personnes pour ensuite les mettre à disposition pour le reste de l'organisation. Ce qui fait que ça va permettre de récupérer en fait le savoir des personnes, à la fois bah, les documents, le savoir explicite, mais aussi ce qu'ils ont dans leur tête, leur expérience, le contexte, pour pouvoir le réutiliser après qu'ils soient partis de l'organisation.
Oui, en fait, ça permet à l'entreprise de maintenir dans la durée le savoir-faire, les compétences qu'elle a pu développer via ses collaborateurs. Oui. Et ce qui est intéressant aussi dans votre solution, c'est que c'est quelque part, il y a quand même une personnalisation, puisque du coup, tu peux nous expliquer comment, comment l'IA va aller chercher l'info et puis la confronter au regard du collaborateur qui est encore là avant de...
Oui, tout à fait. Donc, ce qu'on essaye de faire, c'est de ne pas être juste un moteur de recherche ou quelque chose comme ça. On ne va pas aller chercher juste la donnée pour la donnée. On va sur une question donnée. Donc, par exemple, un employé pose une question. Donc, un exemple qu'on a eu chez un client il n'y a pas très longtemps, un employé qui était à Dubaï commence un nouveau projet. Il veut savoir si dans son entreprise, ils ont déjà travaillé sur le métaverse. Donc, il pose la question à Elcano s'ils ont déjà travaillé là-dessus. Et donc, nous, on a trouvé quelqu'un qui avait déjà travaillé sur plusieurs documents sur le métaverse qui était au Canada. Et donc, on les a mis en relation. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on ne va pas juste retourner le document ou retourner la donnée. C'est la personne qui a travaillé sur le sujet qui va pouvoir répondre à la question et amener plus que de l'information, c'est-à-dire de la connaissance, de l'expertise, du contexte, du retour d'expérience.
Donc, vous allez dire à cette personne au Canada, « Hello, il y a un collègue à toi. »
Tout à fait.
Ah, d'accord. Okay.
Donc, la personne qui était à Dubaï pose la question à Elcano. Nous, on récupère la question, on trouve la bonne personne et on lui envoie dans Teams un petit message qui lui dit « Salut, il y a quelqu'un qui bosse sur ce sujet-là, qui a cette question-là,
d'accord.
qui a besoin de ton aide parce qu'on sait que tu as déjà travaillé là-dessus. Est-ce que tu peux l'aider ?» Et c'est là où c'est aussi intéressant parce que par un mécanisme d'empathie, en fait, quand on voit qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'aide. On a beaucoup plus tendance à prendre le temps de partager sa connaissance, d'aider, etc., que si c'est juste dans le cadre d'un process abstrait.
Tout à fait. Un reporting quelconque, voilà. C'est toujours très difficile.
On voit que ça aide vraiment.
Au final, au bout du fil, il y a quand même quelqu'un qui a besoin de l'information. Et ce système Elcano, il n'est pas trop dur à être adopté par les entreprises? Est-ce que vous avez développé une formation pour les accompagner? Comment ça se passe?
Oui, alors on a toute une méthodologie en fait pour déployer la solution, parce qu'on déploie la solution sur plusieurs milliers de personnes à chaque fois, parce qu'évidemment, il faut une certaine taille pour que c'est de la valeur pour les entreprises. Donc, on a toute une méthodologie en fait pour faciliter l'adoption. Et en plus de ça, ce qui est intéressant, c'est qu'on a depuis vraiment le départ de la conception de la solution, on l'a créée pour que ce soit pour qu'il n'y ait pas besoin de manuel en fait, pour que ce soit tellement simple d'utilisation que
intuitif ouais.
et expliqué, enfin qui s'explique tout seul simplement, justement les utilisateurs puissent l'utiliser sans avoir besoin de lire un manuel ou quoi que ce soit. Donc on arrive à des taux d'adoption qui sont très bons, de l'ordre de 40 voire 50% voire plus sur des organisations de plusieurs milliers de personnes assez rapidement.
Ça, c'est génial. Et on sent bien que ce service, il est international, puisque du coup il permet la communication entre les personnes qui sont dans des pays différents. Et ça me fait penser du coup au mot Elcano. Je t'ai pas posé la question, mais pourquoi Elcano?
Alors, Elcano, c'était un navigateur, c'était le second de Magellan, qui a donc terminé le tour du monde, le premier tour du monde. Et donc, ce navigateur, il vient d'un petit village de pêcheurs qui s'appelle Guetaria, qui est juste à côté de Orio, qui est...
Dans le Pays Basque espagnol.
Dans le Pays Basque espagnol, qui est là d'où vient ma famille, qui était une famille de marins pêcheurs. Et donc, voilà, c'était un petit clin d'œil à ça. Et puis, c'était aussi l'idée de terminer le tour du monde, de pouvoir connecter des personnes entre différents pays, entre différents continents.
Oui, il y a vraiment un bel hommage à Elcano, le marin. Et du coup, Elcano, aujourd'hui, ta société, elle a 4 ans. Vous avez vraiment une belle croissance parce que vous êtes maintenant 11 collaborateurs. Quels sont vos enjeux en termes de développement et les prochains projets que tu aimerais développer?
Alors, pendant les deux premières années, on était vraiment sur la recherche de la solution. Donc, on a mis un peu de temps à trouver justement le bon fit pour régler le problème.
Vous avez amélioré la première version test.
Voilà, c'est ça. Et donc, il y a quelques mois, on a fait une levée de fonds avec Side Capital,
ouais.
Qui nous a permis de passer de 5 collaborateurs à 11 collaborateurs en quelques mois. Et donc là, maintenant, on est dans une phase de croissance où on est à la fois chez nos clients existants, on est en train de déployer à à des populations d'utilisateurs beaucoup plus importantes, vers même 10 000 utilisateurs jusqu'à maintenant. Et en parallèle, on est dans une phase de croissance pour voilà, se développer en France et à l'international, pour avoir de plus en plus de clients et permettre de rendre disponibles le service et le canot à de plus en plus de clients et de plus en plus d'industries.
Et en plus, c'est de plus en plus dans les mœurs aujourd'hui d'utiliser des outils de collaboration décentralisés, ce qui n'était pas forcément le cas et aussi intuitif il y a quelques années.
C'est ça, il y a eu vraiment une explosion de l'utilisation d'outils collaboratifs, notamment Microsoft Teams, qui est maintenant vraiment dans beaucoup d'organisations. Et ça va aussi avec la généralisation du télétravail, avec une mode d'organisation du travail qui est beaucoup plus décentralisé, horizontal, agile.
Ouais.
Voilà. Et nous, on est complètement cette philosophie-là de permettre en fait des échanges faciles, rapides entre des personnes et de le faire de manière assez agile et décentralisée.
Naturel. Voilà. En tout cas, on souhaite que l'aventure Elcano soit adoptée par plein de collaborateurs à travers le monde et plein d'entreprises. Et justement, juste pour le mot de la fin, qu'est-ce que la French Tech Pays Basque et ce réseau, cet écosystème local t'apporte et qu'est-ce que tu attends aussi de tout ça?
Moi, quand je suis arrivé ici, au tout début, quand je suis arrivé au Pays Basque, mon idée de départ, c'était d'aller me réinstaller à Paris après quelques temps. Et en fait, c'est en restant ici quelques mois que je me suis rendu compte que ben voilà, il y avait un écosystème, il y avait un accompagnement, notamment... voilà, grâce à la French Tech Pays Basque qui venait d'exister à ce moment-là.
C'est lancé, ouais, il y a 3 ans.
Et je trouvais ça très pertinent d'avoir un écosystème pour à la fois rencontrer tous les acteurs qui gravitent autour de la scène tech au Pays Basque, et puis aussi de pouvoir, c'est un peu aussi ce qu'on est en train de faire maintenant, mais de pouvoir les mettre en avant et d'accéder à un peu plus de notoriété et de permettre en fait de faire rayonner en fait toutes les startups qui existent ici, et il y en a beaucoup, il y en a plus qu'on croit.
Oui.
Dans le reste de la France.
Exactement. Écoute, c'est top, c'est vraiment ce qu'on souhaite apporter avec la French Tech, avec notre asso, c'est de vous aider à communiquer, à être connu dans le monde entier. Ça, c'est vraiment notre objectif. Et c'était un plaisir d'échanger avec toi, Yann. Merci beaucoup pour cet échange inspirant. Et pour celles et ceux qui souhaitent en savoir plus sur la société Elcano et sur Yann Echeverria, je vous invite à découvrir la vidéo de présentation et les coulisses des bureaux, puisqu'on est sur la Technopole Isabelle en ce moment même. Et on a fait un super reportage. Et vous verrez aussi qu'on a voyagé et qu'on est allé près de l'eau, justement dans le Pays Basque espagnol. Donc je vous invite à regarder sur YouTube, sur notre chaîne La French Tech Pays Basque, et puis à découvrir ce reportage. À très bientôt. Merci beaucoup, Yann.
Merci, Nina.
Ciao, à très vite.